Vous écoutez RFI les 7h à Paris, 5h à Abidjan et en temps universel.
Andréane Mélard.
Bonjour à vous, bienvenue. C'est le début de RFI Matin tout de suite, mercredi 22 avril 2026. Jusqu'à 10h, on revient très largement sur cette annonce faite hier soir par le président américain, la prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran. Pourquoi? Qu'est-ce que ça implique? Quelle réaction à Téhéran et ailleurs? On en parle ce matin avec nos spécialistes et nos correspondants. Et dans votre journal tout de suite, bonjour Julien Coquel-Rohemmer.
Bonjour Andréane, à la une de ce journal, le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis prolongé unilatéralement par Donald Trump à quelques heures de son expiration. Le président américain repousse la fin de la trêve jusqu'à nouvel ordre alors que les négociations patinent entre Washington et Téhéran. L'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations Unies exige ce matin la fin du blocus américain dans le détroit d'Hormuz avant toute reprise des discussions. Donald Trump a annoncé le maintien de ce blocus hier soir. Dans ce contexte des discussions bien prévues demain à Washington, les pourparlers Liban-Israël alors que la trêve plusieurs fois violée des deux côté entre ce matin dans son sixième jour. L'armée israélienne continue d'occuper et de détruire systématiquement des villages dans le sud du Liban, de possibles crimes de guerre que les soldats filment et diffusent sur les réseaux sociaux, vous l'entendrez. À la une également, la fin possible du bras de fer entre la Hongrie, l'Ukraine et l'Union Européenne. Kiev annonce la reprise des activités de l'oléoduc Droujba et espère désormais le déblocage du prêt européen de 90 milliards d'euros qui lui est destiné. Et puis quand le réchauffement climatique tue de plus en plus, notamment en Europe. C'est ce que nous enseigne une étude parue ce matin dans le célèbre journal scientifique The Lancet.
Retrait total de l'armée israélienne du territoire libanais.
C'est ce qu'a exigé hier le Premier ministre libanais en visite à Paris, alors qu'à ses côtés, Emmanuel Macron a appelé au désarmement du Hezbollah par les Libanais eux-mêmes et estimé qu'Israël devait renoncer à ses visées territoriales dans le pays, car ni le cessez-le-feu conclu vendredi et violé plusieurs fois depuis, ni les discussions prévues demain entre Beyrouth et Tel Aviv n'empêchent Israël de continuer son occupation illégale du Liban. Dans le sud du pays, les soldats israéliens occupent désormais de nombreuses localités qu'ils rasent méthodiquement pour tracer un périmètre que l'armée israélienne veut occuper durablement et dans lequel les habitants seraient interdits de revenir. Il ferait 5 à 10 kilomètres de profondeur au-delà de la frontière. Un déplacement de population forcée et des destructions systématiques potentiellement constitutifs de crimes de guerre, mais que les soldats israéliens filment, photographient et diffusent largement sur les réseaux sociaux. Noé Pignède.
Le cliché qui a peut-être le plus choqué les Libanais, c'est celui d'un soldat israélien muni d'une massue. Il fracasse une statue du Christ dans le village de Debel. Le premier ministre israélien promet des mesures sévères contre le profanateur. Mais la plupart des destructions perpétrées et filmées par l'armée israélienne dans le sud du Liban ne provoquent aucune réaction des dirigeants de l'État hébreu. Sur ces images tournées ce mois-ci à la frontière, trois hommes en treillis se tiennent devant le village de Del Serian, l'un d'eux a la main sur le détonateur.
4, 3, 2, 1.
Au moins une vingtaine de localités comme celle-ci ont été dynamitées depuis 2023. L'armée israélienne invoque la présence d'infrastructures et de tunnels du Hezbollah sans jamais en apporter la preuve. L'autre type de vidéos qui inondent les réseaux sociaux, ce sont celles de soldats tout sourire, pillant et saccageant des maisons. Ici, l'auteur de la vidéo a même pris le temps d'y mettre de la musique avant de la publier. Dans un commentaire, un internaute s'indigne de l'impunité des envahisseurs. Ils n'ont même plus la moindre hésitation à être filmés. Leur humanité s'est brisée.
Et alors que l'offensive israélienne a fait plus d'un million de déplacés depuis le 2 mars, Nawaf Salam a estimé hier que le Liban avait besoin de 500 millions d'euros dans les 6 prochains mois pour faire face à la crise humanitaire. La journée d'hier a été marquée par de nouvelles frappes de part et d'autre. L'armée israélienne a annoncé avoir bombardé une position du Hezbollah dans le sud du Liban, alors que le groupe armé pro-iranien affirme pour sa part avoir mené une attaque dans le nord d'Israël face à ce qu'il dénonce comme des violations flagrantes du cessez-le-feu.
Pas de reprise des frappes en revanche en Iran et dans les pays du Golfe. Donald Trump a prolongé unilatéralement le cessez-le-feu avec Téhéran hier soir.
Et ce jusqu'à nouvel ordre, ou plutôt jusqu'à ce que l'Iran présente une proposition visant à mettre fin au conflit. Le suspense est demeuré entier jusqu'à la dernière minute alors que le vice-président américain J.D. Vance ne s'est finalement pas rendu au Pakistan hier. Pour de nouvelles négociations avec Téhéran, les deux pays se sont menacés jusque dans les dernières heures de la trêve qui devait prendre fin cette nuit. Sa prolongation a été saluée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et par le premier ministre du Pakistan, alors que Donald Trump affirme qu'il y a consenti à la demande d'Islamabad.
Le président américain qui maintient en revanche le blocus du détroit d'Ormuz.
Et qui espère ainsi mettre l'économie iranienne sous pression, mais l'enlisement de la situation dans le détroit pèse sur l'économie mondiale tout entière, et notamment celle de la France. La guerre pourrait coûter au moins 6 milliards d'euros au pays, a estimé hier le premier ministre Sébastien Lecornu, le chef du gouvernement qui refuse toujours d'ouvrir les vannes face à la hausse des prix du carburant qui inquiète les Français, Raphaël Delvolvé.
D'accord pour renforcer l'aide au litre de carburant pour les pêcheurs, agriculteurs, transporteurs. D'accord aussi pour un dispositif visant 3 millions de travailleurs modestes. Mais c'est tout. Sébastien Lecornu continue la politique de l'aide au compte-gouttes.
Pas de mesures générales indiscriminées, non financées, non finançables.
Comment tenir un équilibre périlleux au moment où les finances publiques françaises, elles aussi, souffrent de la guerre? Elles coûtent déjà 6 milliards d'euros selon le gouvernement. Ainsi, le Premier ministre pense jauger l'effort face à un contexte volatile pouvant aussi bien s'aggraver que s'arranger à tout moment.
Si ça va mieux, il pourrait se passer tout ça. Si les choses devaient s'aggraver, il va sans dire que d'autres annonces pourraient être faites.
Pas question de céder non plus aux pressions des oppositions, comme les demandes de Marine Le Pen de baisse de taxes sur les carburants.
Celles et ceux qui souvent veulent diminuer la fiscalité aujourd'hui sont les mêmes qui proposaient des augmentations d'impôts pendant les discussions budgétaires. C'est ce que précisément nous cherchons à refuser.
Le Premier ministre a aussi toujours les distributeurs de carburant dans son viseur. Il leur demande de la transparence.
On a des marchés globaux qui montent et qui descendent très vite. Il faut aussi qu'à la pompe, ça monte et ça descende tout aussi vite.
Bref, le gouvernement espère faire baisser une pression de l'opinion publique et se garder dans le même temps des marges de manœuvre dans un contexte aussi incertain qu'inflammable.
Raphaël Delvolvé.
À la une également, peut-être la fin d'un bras de fer.
Celui qui oppose l'Ukraine à la Hongrie depuis le début de l'année, Volodymyr Zelensky a annoncé hier que l'oléoduc Droujba était prêt à reprendre du service et à livrer de nouveau du pétrole russe à la Hongrie via le territoire ukrainien. Des frappes russes l'avaient endommagé en janvier. Et depuis, Viktor Orban accusait Kiev de traîner des pieds pour le réparer. Le premier ministre hongrois, sèchement battu il y a 10 jours aux élections législatives, pourrait donc mettre fin au blocage du prêt de 90 milliards d'euros que l'Union européenne veut accorder à l'Ukraine. C'est ce que le président ukrainien a demandé hier, Emmanuel Chaz.
Lors de son adresse quotidienne, Volodymyr Zelensky s'est montré ferme pour le président ukrainien si Kiev a bien accédé aux demandes de ses alliés et réparé l'oléoduc russe Droujba, mis hors d'état après une frappe russe fin janvier. L'Ukraine attend de l'Union européenne qu'elle verse le prêt accordé en décembre.
Il est important que le plan de soutien européen à l'Ukraine soit débloqué. 90 milliards d'euros sur 2 ans. Ces fonds ont déjà été approuvés, mais ils étaient bloqués. Il n'y a désormais plus aucune excuse pour maintenir ce blocage. L'Union européenne a demandé à l'Ukraine de réparer l'oléoduc Droujba détruit par les Russes. Nous l'avons réparé. Nous espérons que l'Union européenne fera sa part.
Le président ukrainien rappelle aussi que Kiev attend davantage de sanctions à l'encontre de la Russie.
Il n'y a eu aucun progrès depuis longtemps concernant de nouvelles sanctions contre la Russie pour cette guerre. C'est d'autant plus problématique que les États-Unis assouplissent leurs restrictions.
De son côté, Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a annoncé qu'une interdiction d'entrée sur le territoire européen pour les anciens combattants russes serait examinée par Bruxelles lors du Conseil européen de juin, une décision saluée par le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiha. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
RFI 5h09 à Nouakchott, en Mauritanie. Le climat politique se crispe encore un peu plus.
Alors que 2 députés de l'opposition ont été placés hier sous mandat de dépôt et envoyés en prison, Mariam Cher et Ramou Achour, élus du mouvement abolitionniste IRA, sont poursuivis pour avoir critiqué le président et le gouvernement lors de directs sur les réseaux sociaux. À Nouakchott, correspondance d'Oumar El Hadjtiam.
C'est une décision qui a fait l'effet d'une bombe dans le paysage politique mauritanien. En envoyant Mariam Cheikh et Ramou Achour derrière les barreaux, la justice semble avoir choisi la fermeté. Mariam Cheikh a d'ailleurs été incarcérée avec son nourrisson de 3 mois. Pour le parquet général, les choses sont claires. Les propos tenus par les deux élus sur les réseaux sociaux constituent, je cite, une insulte aux institutions et un cas de flagrant délit. Une qualification juridique cruciale, car elle permet, selon les autorités, de contourner l'immunité parlementaire dont bénéficient normalement les députés. Mais pour le mouvement IRA et son leader Bramda Abid, l'argument légal ne tient pas. L'organisation dénonce une police politique et une campagne de stigmatisation visant à réduire au silence les voix critiques, particulièrement celles ici de la communauté haratine. L'Iran s'inquiète également de l'état de santé de Qamou Achour et des conditions de détention de la jeune mère et de son enfant. Cette incarcération intervient dans un contexte de haute tension, alors que le pouvoir et une partie de l'opposition tentaient de maintenir un semblant de dialogue national. Cette crise risque de figer les positions pour de nombreux observateurs. Omar El Hajitiam, Nouakchott.
Dans l'actualité du continent également, ce matin, l'inculpation cette fois de 6 hommes au Nigeria hier, dont un général de division à la retraite, pour avoir conspiré en vue de commettre un acte de terrorisme. Ils auraient tenté de planifier un coup d'État en octobre 2025. Les autorités avaient démenti les faits dans un premier temps avant que le président Bola Tinubu ne procède à un grand remaniement de l'état-major. Le complot présumé impliquait une 40aine de suspects. Les 6 hommes inculpés hier devraient comparaître aujourd'hui devant la Haute Cour de justice d'Abuja.
Aux États-Unis, les démocrates en révèlent, la Virginie l'a fait.
Dans cet état tout proche de Washington DC, les électeurs ont dit oui à un peu plus de 51% des voix lors d'un vote sur le redécoupage électoral de l'État, une nouvelle carte favorable au Parti démocrate en réponse à une opération du même type engagée l'an dernier par Donald Trump au Texas pour faire gagner aux républicains des sièges au Parlement. La campagne en Virginie a été très suivie. Barack Obama s'y est même impliqué, car Vincent Souriau, les élections de mi-mandat à la fin de l'année vont aussi se jouer sur ces petits arrangements très politiques.
L'idée, c'est de provoquer un raz-de-marée lors des élections de mi-mandat en Virginie, car ce redécoupage ne fait pas dans la dentelle. Sur le papier, il offre un avantage colossal aux démocrates. 10 circonscriptions gagnables contre une seule aux républicains, avec l'ambition de...
Est-ce que t'as déjà eu tellement de buée à ton carreau que tu t'es senti presque obligé d'y dessiner un cœur avec ton doigt? Tu t'es déjà dit que t'aimerais bien remonter le temps pour revivre une discussion, juste pour trouver les mots qu'il faut, ce que t'as pas trouvé sur le moment mais que t'as très bien trouvé après? Quand t'étais plus jeune et que t'avais un amoureux, tu t'es entraîné à signer son nom de famille pour quand vous serez mariés plus tard? Sur la route des vacances, tu t'es déjà dit qu'une maison était vraiment belle, que t'aimerais bien y habiter, mais en fait non, parce qu'elle est au bord de l'autoroute. Et marcher en équilibre, sur une ligne blanche, les bras écartés, comme un funambule. Tu l'as déjà fait ? Nous, ensemble, se battre des ailes qui rassemble. Toi aussi t'as le souffle magique. Tu sais, celui qu'on utilise sur nos appareils à piles qui fonctionnent plus. Quand on les sort les piles, qu'on souffle dessus, qu'on les inverse, puis qu'on les remet, et puis que ça remarche. T'es déjà retourné chez toi pour vérifier que t'avais bien éteint le gaz, que tu savais que oui, mais quand même, tu te sens mieux maintenant que t'es sûr. T'as déjà envoyé un message pour dire « Je suis dans ma voiture, j'arrive dans 15 minutes », alors que tu sais très bien que tu vas arriver dans une bonne demi-heure. T'as déjà lu 10 fois de suite la même phrase de ton même livre, puis tu finis par laisser tomber parce que t'es trop fatigué, tu la comprends toujours pas, et tu fais ça tous les soirs de toute ta vie dans ce moment. Et croquer la neige les matins d'hiver quand le paysage est tout blanc. Tu l'as déjà fait ? Nous, ensemble, se battre des ailes qui rassemblent. Est-ce que devant un beau film, ça t'arrive de retenir tes larmes parce que t'as peur d'avoir l'air con? Et quand tu te retournes vers la personne qui est à côté de toi, tu te rends compte qu'elle aussi, elle les retient. Et ça vous fait rire. Alors les larmes, elles coulent toutes seules. Mais c'est pas grave, parce qu'un sourire aux larmes, y a rien de plus joli. Tu t'es déjà demandé pourquoi ces fleurs qu'on appelle pensées, elles ont pas de tête? Et ces fleurs qu'on appelle soucis, elles ont pas de problème? Toi aussi, t'as pleuré quand t'as appris pour les copains de Charlie Hebdo? T'as déjà éteint ta télé et ta radio pendant plusieurs jours et te dire que le monde, il va pas si mal que ça. Nous, ensemble, se battre des ailes qui rassemblent. J'ai déjà dit que même si on est différent, on l'est pas tant que ça en fait. Que quel que soit l'endroit du globe où on a posé nos envies de grandir, on a tous la même folie, la même magie, les mêmes doutes, les mêmes travers, les mêmes pètes au casque, les mêmes voix qui nous chuchotent la nuit d'essayer de trouver notre place dans ce monde, d'essayer d'y tracer nos chemins de gens heureux, heureux, sans raison. Nous, se battre des ailes. Débédé.
Les gens parlent comme un sans-pleur. 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 sous-marin des mers de Chine.
Dans mon larynx,
centre choc des bêtes de rime.
Nick Fury,
high-tech,
c'est nous, tu vois ce que je veux dire.
Mon son prostitue ton son,
jusqu'à l'accordage du string. Dans le métro, un concert de SDF où personne ne réagit, que la foule n'acclamera pas. Pas d'argent interactif, j'ai pas les poches pleines d'eau. Le liquide est là, princesse, chômage, voiture, nuit blanche et aucun cours de kendo.
Allant de l'avant, c'est marrant, je garde en souvenir de l'argent. Des tonnes et des tonnes de carreaux, je m'entraîne. Malaise en attente, j'ai 42 fièvres à la bande. J'ai la crève interdit bancaire depuis quelques temps. En tant qu'on pile les deux comptoirs, j'entends le vent siffler, je veux qu'on parle et qu'on compare. Le temps qu'on perd, c'est qu'on parte en testicule. Et le temps qu'on traîne en véhicule, j'aime les tissus, je me sens complexe. Sur la plénitude, pas de pierre dans la vésicule, c'est le terminus. Des épaves et des détritus, j'ai le plan de stratège pour les issues sans
guette.
Your little dog.